Chapitre 5. J. Tom Lévis, agent des étrangers. De tous les antres parisiens, de toutes les cavernes d'Ali Baba, dont la grande ville est minée et contre-minée, il n'y en a pas de plus particulier d'une organisation aussi intéressante que l'agence Lévis. Vous la connaissez, tout le monde la connaît, au moins du dehors. C'est dans la rue Royale, à l'angle du faubourg Saint-Honoré, en plein sur le passage des voitures qui vont au bois ou qui en reviennent, sans qu'une seule puisse échapper à la réclame raccrocheuse de ce somptueux rez-de-chaussée sur 8 marches, avec ses hautes fenêtres d'une seule vitre, portant chacune les armes vermillonnées, azurées et dorées des principales puissances d'Europe, aigle, licorne, léopard, toute la ménagerie héraldique. À 30 mètres, dans la largeur entière de cette rue qui vaut un boulevard, l'agence Lévis attire les regards les moins curieux. Chacun se demande « qu'est-ce qu'on vend ici ?»« Que ne vend-on pas » serait-il mieux de dire. Sur chaque vitrine, on lit en effet en belles lettres d'or « ici, vin, liqueur, comestible, pale ale, cumel, raki, caviar, brandade de morue » ou bien « meubles anciens et modernes, tapisseries, verdures, tapis de Smyrne et d'Ispahan. Plus loin, tableaux de maître, marbres et terres cuites, armes de luxe, médailles, panoplies. Ailleurs, change, escompte, monnaies étrangères, ou encore, librairie universelle, journaux de tout pays, de toute langue. À côté d'eux, ventes et locations, chasse, plage, villégiature, ou d'eux, renseignements, discrétion, célérité. Ce fourmillement d'inscriptions et d'armoiries brillantes brouille singulièrement la devanture et ne permet pas de bien voir les objets qui s'y étalent. Vaguement, on distingue des bouteilles de formes et de couleurs étranges, des chaises en bois sculpté, des tableaux, des fourrures, puis, dans des sébiles, quelques rouleaux d'effets de piastre et de liasses de papier-monnaie. Mais les vastes sous-sols de l'agence, ouvrant sur la rue au ras du trottoir par des sortes de hublots grillagés, servent d'assises solides et sérieuses à l'étalement un peu criard de la vaste boutique, procurent l'impression de magasins cossus de la cité de Londres, soutenant le chic et le fla-fla d'une vitrine du boulevard de la Madeleine. Cela déborde là-dessous de richesses de toutes sortes, barriques alignées, ballots d'étoffes, entassements de caisses, de coffres, de boîtes de conserve, profondeurs pleines à donner le vertige, comme lorsque sur le pont d'un paquet des messageries en partance, le regard plonge dans la cale béante du navire qu'on est en train d'arrimer. Ainsi disposée, solidement tendue en plein remous parisien, la nasse agrippe à la volée une foule de gros et de petits poissons, même du fretin de la Seine, le plus subtil de tous. Et si vous passez par là vers 3 heures de l'après-midi, vous la trouverez presque toujours remplie. À la porte vitrée sur la rue Royale, haute, claire, dominée d'un large fronton de bois sculpté, entrée de magasins de nouveautés ou de mode, se tient le chasseur de la maison, militairement galonné, tournant le bouton dès qu'il vous voit, tendant un parapluie quand il en est besoin aux clientes qui descendent de voiture. Devant vous, une immense salle partagée par des barrières, des grillages à guichets, en une foule de compartiments, de box réguliers, à droite et à gauche, jusqu'au fond. Le jour éblouissant fait reluire les parquets cirés, les boiseries, les redingotes correctes et les frisures aux petits fers des employés, tous élégants, de belles mines, mais d'accent et d'air étranger. Il y a là les teints olivâtres, les crânes pointus, les étroites épaules asiatiques, des colliers de barbes américains sous des yeux bleu faïence, de rouges carnations allemandes, et dans quelque idiome que l'acheteur fasse sa commande, il est toujours sûr d'être compris, car on parle toutes les langues à l'agence, excepté la langue russe, bien inutile du reste, puisque les Russes les parlent toutes, excepté la leur. La foule va et vient autour des guichets, attend sur les chaises légères, messieurs et dames en tenue de voyage, mélange de bonnets d'astrakhan, toques écossaises, longues voiles flottantes au-dessus de waterproof, de twins à carreaux habillant indistinctement les deux sexes, ou des paquets en courroie, des sacs de cuir en sautoir, un vrai public de salle d'attente, gesticulant, parlant haut, avec le sans-gêne, l'aplomb, de gens hors de chez eux, faisant en plusieurs langues le même charivari confus, bariolé, qu'on entend chez les marchands d'oiseaux du quai de Gèvres. En même temps, sautent des bouchons de pêle-aile ou de romanée, des piles d'or s'écroulent sur le bois des comptoirs. Ce sont d'interminables sonneries électriques, des coups de sifflet dans les tuyaux de communication, le cartonnage d'un plan de maison qu'on déroule, un dessin d'arpège essayant un piano, ou les exclamations d'une tribu de Samoyèdes autour d'une énorme photographie au charbon. Et puis, d'un box à l'autre, les employés qui se jettent des renseignements, un chiffre, un nom de personne ou de rue, souriant, empressé, pour devenir tout à coup majestueux, glacé, indifférent, la physionomie complètement détachée des affaires de ce globe, lorsqu'un malheureux, éperdu, rejeté déjà de guichet en guichet, se penche pour leur parler tout bas d'une certaine chose mystérieuse qui paraît les combler d'étonnement. Quelquefois, fatigué d'être regardé comme une trombe ou un aérolite, l'homme s'impatiente, demande à voir J. Tom Lévis lui-même, qui saura certainement ce dont il s'agit. Alors, il lui est répondu avec un sourire supérieur que J. Tom Lévis est en affaire, que J. Tom Lévis est avec du monde, et pas des petites broutilles d'affaires comme les vôtres, pas du petit monde comme vous, mon brave homme. Tenez, regardez là-bas, tout au fond. Une porte vient de s'ouvrir. J. Tom Lévis se montre une seconde, plus majestueux à lui seul que tout son personnel, majestueux par sa bedaine rondelette, majestueux par son crâne raboté et luisant comme le parquet de l'agence, par le renversement de sa petite tête, son regard à 15 pas, le geste despotique de son bras court et la solennité avec laquelle il demande en criant très fort, avec son accent insulaire, si l'on a fait l'envoi de son Altesse Royale Monseigneur le Prince de Galles, en même temps que, de sa main restée libre, il tient hermétiquement close derrière lui la porte de son cabinet pour bien donner à entendre que l'auguste personnage enfermé là est de ceux qu'on ne dérange sous aucun prétexte. Il va sans dire que le Prince de Galles n'est jamais venu à l'agence et qu'on n'a pas le moindre envoi à lui faire. Mais si vous pensez l'effet de ce nom sur la foule du magasin et sur le client solitaire à qui Tom vient de dire dans son cabinet « Pardon, une minute, un petit renseignement à demander. » De la banque, de la banque. Il n'y a pas plus de Prince de Galles derrière la porte du cabinet qu'il n'y a de raki ou de cumel dans les bouteilles bizarres de la vitrine, de bière anglaise ou viennoise dans les tonneaux cerclés du sous-sol, pas plus qu'on ne transporte des marchandises dans les voitures armoriées, dorées, vernissées, timbrées JTL, qui passent au grand galop, d'autant plus rapides qu'elles sont vides, dans les beaux quartiers de Paris, réclame ambulante et bruyante, brûlant le pavé, avec cette activité enragée qui distingue hommes et bêtes à l'agence Tom Lévis. Qu'un pauvre diable, grisé par tout cet or, crève d'un coup de poing la vitrine du change et plonge goulûment sa main sanglante dans les sébiles, il la retirera pleine de jetons. S'il prend cette énorme liasse de banknotes, c'est un billet de 25 livres qu'il emportera sur une ramette de papier bulle. Rien aux étalages, rien dans le sous-sol, rien, rien, pas ça. Mais pourtant, le porto que ces Anglais dégustent, la monnaie qu'emporte ce boyard contre ses roubles, le petit bronze empaqueté pour cette grecque des îles. Oh mon Dieu, rien de plus simple. La bière anglaise vient de la taverne à côté, l'or de chez un changeur du boulevard, le bibelot de la boutique de choses de la rue du 4 septembre. C'est l'affaire d'une course vivement faite par 2 ou 3 employés qui attendent dans le sous-sol les ordres que leur transmettent les tuyaux acoustiques. Sortis par la cour de la maison voisine, ils reviennent en quelques minutes, émergent de l'escalier tournant à rampe ouvragée et pomme de cristal qui fait communiquer les 2 étages. Voilà l'objet demandé, garanti, étiqueté JTL. Et ne vous gênez pas, mon prince, si celui-là ne vous plaît pas, on peut vous le changer. Les caves de l'agence sont bien fournies. C'est un peu plus cher que partout ailleurs, le double ou le triple seulement. Mais cela ne vaut-il pas mieux que de courir les magasins où l'on ne comprend pas un mot de ce que vous dites, malgré la promesse de l'enseigne « English spoken » ou Mansfrisch Deutsch de ces magasins du boulevard où l'étranger entouré, circonvenu, ne trouve jamais que les fonds de boîte, les soldes, les rossignols, ce rebut de Paris, ce déficit du livre de caisse, l'objet qui n'est plus à la mode, la devanture de l'an passé, ternie plus encore par sa date que par la poussière ou le soleil de l'étalage. Oh, le boutiquier parisien, obséquieux et gouailleur, dédaigneux et collant, c'est fini, l'étranger n'en veut plus. Il se lasse à la fin d'être aussi férocement exploité, et non seulement par le boutiquier, mais par l'hôtel où il couche, par le restaurant où il mange, le fiacre qu'il hèle dans la rue, le marchand de billets qu'il envoie bâiller dans les théâtres vides. Au moins, à la maison Lévis, dans cette ingénieuse agence des étrangers, où l'on trouve tout ce qu'on désire, vous êtes sûr de n'être pas trompé, car J. Tom Lévis est anglais, et la loyauté commerciale de l'anglais est connue dans les deux mondes. Anglais, J. Tom Lévis l'est comme il n'est pas permis de l'être davantage, depuis le bout carré de ses souliers de Quaker jusqu'à sa longue redingote tombant sur son pantalon à carreaux verts, jusqu'à son chapeau pyramidal au rebord minuscule, laissant ressortir sa face boulotte, rougeaude et bon enfant. La loyauté d'Albion se lit sur ce teint nourri de beefsteak, cette bouche fendue jusqu'aux oreilles, la soie blondasse de ses favoris inégaux par la manie qu'a leur propriétaire d'en dévorer un, toujours le même, dans ses moments de perplexité. Elle se devine dans la main courte, aux doigts duvetés de roux chargés de bagues. Loyal aussi paraît le regard sous une large paire de lunettes à fine monture d'or, tellement loyal que lorsqu'il arrive à J. Tom Lévis de mentir, les meilleurs y sont exposés, les prunelles, par un singulier tic nerveux, se mettent à virer sur elles-mêmes comme de petites roues emportées dans la perspective d'un gyroscope. Ce qui complète bien la physionomie anglicane de J. Tom Lévis, c'est son cab, le premier véhicule de ce genre qu'on ait vu à Paris, la coquille naturelle de cet être original. A-t-il une affaire un peu compliquée ? Un de ces moments comme il y en a dans le trafic où l'on se sent serré, acculé ? « Je prends le cab, dit Tom, et il est sûr d'y trouver quelque idée. » Il combine, il pèse, il commente, tandis que les Parisiens voient filer dans la boîte transparente, à roulettes et ras du sol, cette silhouette d'homme préoccupé qui mâchonne son favori droit avec énergie. C'est dans le cab qu'il a imaginé ses plus beaux coups, ses coups de la fin de l'Empire. Ah, c'était le bon temps alors! Paris bondé d'étrangers, et non pas des étrangers de passage, mais une installation de fortunes exotiques ne demandant que noces et ripailles. Nous avions le Turc Hussein Bey et l'Égyptien Mehmet Pacha, deux fêtes célèbres autour du lac, et la princesse Verkhatchev qui jetait tout l'argent des monts Oural par les 14 fenêtres de son premier du boulevard Malesherbes, et l'Américain Bergson à qui Paris dévorait les revenus énormes de ses mines de pétrole. Bergson est rentré dans ses fonds depuis. Et des nababs, des flottes de nababs de toutes les couleurs, des jaunes, des bruns, des rouges, panachant les promenades et les théâtres, pressés de dépenser, de jouir, comme s'ils prévoyaient qu'il faudrait vider le grand cabaret en liesse avant l'explosion formidable qui allait en crever les toits, briser les glaces et les vitres. Comptez que J. Tom Lévis était l'intermédiaire indispensable de tous ces plaisirs, qu'un louis ne s'échangeait pas sans qu'il l'eût préalablement rogné et qu'aux étrangers de sa clientèle se joignaient quelques bons vivants parisiens d'alors, amateurs de gibier rare, braconniers de chasse gardée, qui s'adressaient à l'ami Tom comme à l'agent le plus fin, le plus habile, et aussi parce que, derrière son français barbare, sa difficulté d'élocution, leur secret paraissait plus en sûreté. Le cachet J.T.L. a scellé toutes les histoires scandaleuses de cette fin de l'Empire. C'est au nom de J. Tom Lévis qu'était toujours retenue la baignoire numéro 9 de l'Opéra Comique, où la baronne Mills venait chaque soir, pendant une heure, entendre son ténorine, dont elle emportait, après la cavatine, dans les dentelles de son corsage, le mouchoir trempé de sueur et de blanc de ses ruses. Au nom de J. Tom Lévis, le petit hôtel de la rue de Clichy, loué de compte à demi, sans qu'il s'en doute, et pour la même femme, aux deux frères Sismondo, deux banquiers associés qui ne pouvaient quitter leur comptoir à la même heure. Ah, les livres de l'agence à cette époque, quels beaux romans en quelques lignes! Maison à deux entrées sur la route de Saint-Cloud. Location, mobilier, indemnité au locataire, tant. Et, au-dessous, commission du général, tant. Maison de campagne au Petit Valtin, pré-plombière, jardin, remise, deux entrées, indemnité au locataire, tant. Et toujours, commission du général. Ce général tient une place dans les comptes de l'agence. Si Tom s'enrichissait en ce temps-là, il dépensait gros aussi, non pas au jeu, ni en chevaux, ni en femmes, mais à satisfaire des caprices de sauvage et d'enfant, l'imagination la plus folle, la plus cocasse qui se pût voir, et qui ne laissait pas d'intervalle entre le rêve et sa réalisation. Une fois, c'était une allée d'acacia qu'il voulait au bout de sa propriété de Courbevoie, et comme les arbres sont trop longs à pousser, pendant 8 jours, par les berges de la Seine très nues à cet endroit et noires d'usines, on voyait défiler lentement de grands chariots portant chacun son acacia, dont les panaches de branches vertes bercées au lent mouvement des roues flottaient sur l'eau en ombre tremblante. Cette propriété de banlieue que J. Tom Lévis habitait toute l'année, selon l'usage des grands commerçants de Londres, d'abord un vide-bouteille, tout en rez-de-chaussée et en grenier, devenait pour lui une source de dépenses effroyables. Ses affaires prospérant et s'étendant, il avait agrandi proportionnellement son bien. Et de bâtisse en bâtisse, d'acquisition en acquisition, il était arrivé à posséder un parc fait d'annexes, de terrains de culture joints à des bouts de taillis, une étrange propriété où se révélaient ses goûts, ses ambitions, son excentricité anglaise, déformée, rapetissée encore par des idées bourgeoises et des tentatives d'art manqué. Sur la maison tout ordinaire, aux étages supérieurs visiblement ajoutés, s'étendait une terrasse italienne à balustres de marbre, flanquée de 2 tours gothiques, et communiquant, par un pont couvert, avec un autre corps de logis jouant le chalet, au balcon découpé, au tapis montant de lierre. Tout cela peint en stuc, en briques, en joujoux de la forêt noire, avec un luxe de tourillons, de créneaux, de girouettes, de moucharabiers, puis, dans le parc, des hérissements de kiosques, de belvédères, de miroitements de serres, de bassins, le bastion tout noir d'un immense réservoir à monter l'eau, dominé par un vrai moulin, dont les toiles, sensibles au moindre vent, claquaient, tournaient, avec le grincement perpétuel de leur axe. Certes, sur les droits espaces que traversent les trains de la banlieue parisienne, bien des villas burlesques défilent dans le cadre d'une glace de wagon, comme des visions, des cauchemars fantastiques, l'effort d'un cerveau boutiquier, échappé et caracolant. Mais aucune n'est comparable à la folie de Tom Lévis, si ce n'est la villa de son voisin Sprich, le grand Sprich, l'illustre couturier pour dames. Ce fastueux personnage ne reste à Paris, lui aussi, que le temps des affaires, les 3 heures d'après-midi, où il donne ses consultations de coquetterie dans sa grande officine des boulevards, puis, tout de suite, il revient à sa maison de Courbevoie. Le secret de cette retraite forcée, c'est que le cher Sprich, le dire de toutes ces dames, s'il possède dans ses tiroirs, parmi les merveilleux échantillons de ses fabriques lyonnaises, des spécimens d'écriture liés, des pattes de mouche de toutes les mains les mieux gantées de Paris, a dû s'en tenir toujours à cette intimité de correspondance qu'il n'ait reçue dans aucune des maisons qu'il habille, et que ses belles relations lui ont gâté tout rapport avec le monde commerçant dont il fait partie. Aussi vit-il très retiré, envahi comme tous les parvenus par la bande des parents pauvres et mettant son luxe à les faire royalement servir. Sa seule distraction, le montant nécessaire à cette vie de bourreau retraité, c'est le voisinage, la rivalité de Tom Lévis, la haine et le mépris qu'ils se sont réciproquement voués, sans savoir pourquoi du reste, ce qui rend tout raccommodement impossible. Quand Sprich dresse une tourelle, Sprich est allemand, il aime le romanesque, les châteaux, les vallons, les ruines, il a la passion du Moyen-Âge, aussitôt J. Tom Lévis fait bâtir une véranda. Quand Tom abat une muraille, Sprich jette toutes ses haies par terre. Il y a l'histoire d'un pavillon bâti par Tom et qui gênait la vue de Sprich vers Saint-Cloud. Le couturier éleva alors la galerie de son pigeonnier. L'autre riposta par un nouvel étage. Sprich ne se tint pas pour battu, et les deux édifices, à grand renfort de pierres et d'ouvriers, continuèrent leur ascension jusqu'à une belle nuit où le vent les renversa toutes deux sans peine, vu la fragilité de leur construction. Sprich, au retour d'un voyage d'Italie, ramène de Venise une gondole, une vraie gondole, installée dans le petit port, au bas de sa propriété. 8 jours après, un joli yacht à vapeur et à voile vient se ranger au quai de Tom Lévis, remuant dans l'eau les tourelles, les toits, les créneaux reflétés de sa villa. Pour soutenir un train semblable, il eût fallu que l'Empire durât toujours, et sa dernière heure était venue. La guerre, le siège, le départ des étrangers furent pour les deux industriels un véritable désastre, surtout pour Tom Lévis, dont la propriété se trouva dévastée par l'invasion, tandis que celle de Sprich était épargnée. Mais la paix conquise, la lutte recommença de plus belle entre les deux rivaux, cette fois avec des inégalités de fortune, le grand Maudit ayant vu revenir toute sa clientèle et le pauvre Tom attendant en vain le retour de la sienne. L'article, renseignement, discrétion, célérité, ne donnait plus ou presque plus. Et le mystérieux général ne venait plus toucher de gratifications clandestines au bureau de l'agence. Tout autre à la place de Lévis aurait enrayé, mais ce diable d'homme avait d'invincibles habitudes de dépenses, quelque chose dans les mains qui les empêchait de se fermer. Et puis, l'esprit était là, lugubre depuis les événements, annonçant la fin du monde comme proche et s'étant fait construire au fond de leur parc une réduction des ruines de l'hôtel de ville, murs effondrés, noircis de flammes. Le dimanche soir, on éclairait cela de feux de Bengale et tous les Sprich se lamentaient autour. C'était sinistre. J. Tom Lévis, au contraire, devenu républicain en haine de son rival, fêta la France régénérée, organisa des joutes, des régates, couronna des rosières et lors de ses couronnements, dans une expansion de joie luxueuse, enlevait un soir d'été, à l'heure du concert, la musique des Champs-Élysées, venu en yacht à Courbevoie, toute voile dehors et jouant sur l'eau. Les dettes s'accumulaient à ce train-là, mais l'Anglais ne s'en inquiétait guère. Personne ne s'entendait mieux que lui à déconcerter les créanciers à force d'aplomb et de majesté impudente. Personne, pas même les employés de son agence, si bien dressés pourtant, n'avait sa façon d'examiner les factures curieusement, comme des palimpsestes, de les rejeter dans un tiroir d'un air supérieur. Personne n'avait ses rubriques pour ne pas payer, pour gagner du temps. Le temps, c'est bien là-dessus que Tom Lévis comptait pour retrouver enfin quelque opération fructueuse, ce qu'il appelait un grand coup dans l'argot imagé de la bohème d'argent. Mais il avait beau prendre le cab, arpenter Paris fiévreusement, l'œil aux aguets, les dents longues, flairant et attendant la proie, les années se passaient et le grand coup n'arrivait pas. Une après-midi que l'agence fourmillait de monde, un grand jeune homme de mine alanguie et hautaine, œil narquois, moustache fine sur la pâleur bouffie d'un joli visage, s'approcha du guichet principal et demanda à parler à Tom Lévis. L'employé, se trompant sur l'intention cavalière qui soulignait la demande, crut à un créancier et prenait déjà sa mine la plus dédaigneuse, quand le jeune homme, d'une voix aiguë dont le nasillement doublait l'impertinence, déclara à cette espèce d'enflé qu'il eut à prévenir son patron tout de suite que le roi d'Illyrie voulait lui parler. « Ah, monseigneur, monseigneur !» Il y eut dans la foule cosmopolite qui se trouvait là un mouvement de curiosité vers le héros de Raguse. De tous les box ouverts sortit un essaim d'employés, se précipitant pour faire escorte à Sa Majesté, l'introduire chez Tom Lévis, qui n'était pas encore arrivé, mais ne pouvait manquer de rentrer d'un moment à l'autre. C'était la première fois que Christian se montrait à l'agence, le vieux duc de Rosen ayant jusqu'ici réglé tous les mémoires de la petite cour. Mais il s'agissait aujourd'hui d'une affaire tellement intime, tellement délicate, que le roi n'eût même pas osé la confier à la lourde mâchoire de son aide-de-camp. Une petite maison à louer pour une écuyère, qui venait de remplacer à Miféra, pavillon tout meublé, livrable en 24 heures, avec service, écurie et certaines facilités d'accès. Un de ces tours de force, comme l'agence Lévis seule savait en faire. Le salon où il attendait contenait tout juste 2 larges fauteuils en moleskine, une de ces cheminées à gaz étroites et silencieuses dont le réflecteur semble vous renvoyer le feu d'une pièce à côté, un petit guéridon garanti d'un tapis bleu avec l'almanach Bottin posé dessus. La moitié de la pièce était prise par le haut grillage, drapé de rideaux bleus aussi, d'un bureau soigneusement installé et montrant au-dessus du grand livre à coin d'acier, tout ouvert sous l'appui-main, entouré de poudre, de grattoirs, de règles, d'essuie-plumes, un long casier plein de livres de même taille, les livres de l'agence, leurs dos verts alignés comme des Prussiens à la parade. L'ordre de ce petit coin recueilli, la fraîcheur des choses qui l'emplissaient, faisait honneur au vieux caissier, absent pour le moment, dont l'existence méticuleuse devait se passer là. Tandis que le roi continuait à attendre, allongé dans son fauteuil, le nez en l'air dépassant ses fourrures, tout à coup, sans un mouvement de la porte vitrée qui donnait sur les magasins, fermée d'une grande tenture algérienne à trous d'arlequin comme un rideau de théâtre, il se fit derrière le grillage un léger et vif bruissement de plumes. Quelqu'un était assis au bureau, et non pas le vieux commis à tête de loup blanc pour qui la niche semblait faite, mais la plus délicieuse petite personne qui ait jamais feuilleté un livre de commerce. Au geste de surprise de Christian, elle se retourna, l'enveloppa d'un regard doux longuement déroulé, noyant une étincelle à l'angle de chaque tempe. Toute la pièce fut illuminée de ce regard, comme elle fut musicalement charmée par une voix émue, presque tremblante, qui murmurait « Mon mari vous fait bien attendre, monseigneur !» Tom Lévis, son mari, le mari de cet être suave au profil fin et pâle, aux formes dégagées et pleines d'une statuette de Tanagra. Comment était-elle là, seule, dans cette cage, feuilletant ses gros livres, dont la blancheur se reflétait sur son teint mat, dont ses petits doigts avaient peine à tourner les pages, et cela par un de ces beaux soleils de février qui font miroiter tout le long du boulevard la grâce vive, les toilettes, les sourires des promeneuses. Il lui fit, en s'approchant, un madrigal quelconque où se mêlaient ses impressions diverses, mais son cœur le gênait pour parler, tellement il lui battait la poitrine, animé par un de ses désirs effrénés et brusques, comme cet enfant gâté et blasé ne se souvenait pas d'en avoir jamais eu. C'est que le type de cette femme entre 25 et 30 ans était absolument nouveau pour lui, aussi loin des boucles mutines de la petite Colette de Rosaine, de l'aplomb fille, du phare cerclant les yeux d'impudeur de la Ferra, que de la majesté gênante et si noblement triste de la reine. Ni coquetterie, ni hardiesse, ni fière retenue, rien de ce qu'il avait rencontré dans le vrai monde ou dans ses relations avec la haute bicherie. Cette jolie personne à l'air calme et casanier, ses beaux cheveux foncés, lisses comme ceux des femmes qui se coiffent dès le matin pour tout un jour, simplement serrés d'une robe de laine aux reflets de violette, et que deux énormes brillants au bord rosé de l'oreille empêchaient seuls de prendre pour la plus modeste des employées, venait de lui apparaître dans sa captivité de bureau et de travail comme une carmélite derrière un grillage de cloître ou quelque esclave d'Orient implorante dehors par le treillis doré de sa terrasse. Et de l'esclave, elle avait bien l'effarement soumis, le profil penché, de même que les tons ambrés où commençait sa chevelure, la ligne trop droite des sourcils, la bouche au souffle entrouvert, donnait une origine asiatique à cette Parisienne. Christian, en face d'elle, se représentait le front dénudé, la tournure simiesque du mari. Comment se trouvait-elle au pouvoir d'un fantoche pareil? N'était-ce pas un vol, une injustice flagrante? Mais la voix douce continuait lentement, en excuse. « C'est désolant. Tom n'arrive pas. Si votre majesté voulait me dire ce qui l'amène, je pourrais peut-être... » Il rougit, un peu gêné. Jamais il n'eût osé confier à cette candide complaisance l'installation assez louche qu'il méditait. Elle, alors, insista, coulant un sourire. « Oh, votre majesté peut être tranquille, c'est moi qui tiens les livres de l'agence. » Et l'on voyait bien son autorité dans la maison, car à tout instant, au petit œil de bœuf, faisant communiquer le réduit de la caissière avec le magasin, quelques commis venaient chercher, en chuchotant, les renseignements les plus hétéroclites. On demande le pléiel de Madame Caritides. La personne de l'hôtel de Bristol est là. Elle semblait au fait de tout, répondait par un mot, par un chiffre, et le roi, très troublé, se demandait si cet ange en boutique, cet être aérien, connaissait vraiment les manigances, les flibusteries de l'anglais. « Non, madame, l'affaire qui m'amène n'est pas urgente, ou du moins, elle ne l'est plus. Mes idées ont bien changé depuis une heure. » Il se penche au grillage en balbutiant cela, très ému, puis s'arrête et se reproche son audace devant la placide activité de cette femme, ses longs cils effleurant les pages, sa plume filante en ligne régulière. Oh, comme il voudrait l'arracher de sa prison, l'emporter entre ses bras, bien loin, avec ses tendresses murmurantes et berçantes dont on rassure les petits-enfants. La tentation devient si forte qu'il est obligé de s'enfuir, de prendre congé brusquement, sans avoir vu J. Tom Lévis. La nuit venait, brouillardeuse et transie. Le roi, ordinairement si frileux, ne s'en aperçut pas, renvoya sa voiture et se rendit à pied au Grand Club par ces larges voies qui vont de la Madeleine à la place Vendôme, si enthousiasmé, transporté, qu'il parlait seul, tout haut, ses cheveux fins rabattus sur ses yeux, devant lesquels dansaient des flammes. On en frôle parfois dans les rues de ces bonheurs exubérants, le pas léger, la tête haute. Il semble qu'ils laissent une phosphorescence à vos habits sur leur passage. Christian arriva au cercle dans ces mêmes dispositions heureuses, malgré la tristesse des salons en enfilade où s'amassait l'ombre de cette heure indécise, désœuvrée, du crépuscule, mélancolique surtout dans ces endroits demi-publics auxquels manque l'intimité, l'habitude de la demeure. On apportait des lampes. Du fond venait le bruit d'une partie de billard sans entrain, avec des fracas d'ivoire aux parois sourdes, un froissement de journaux lus et le ronflement las d'un dormeur étalé sur le divan du grand salon que l'entrée du roi dérangea et fit retourner avec un bâillement édenté l'étirement sans fin de deux bras maigres en même temps qu'une voix morne demandait « Est-ce qu'on fait la fête ce soir ?» Christian eut un cri de joie. « Ah, mon prince, je vous cherchais !» C'est que le prince d'Axel, plus familièrement queue de poule, depuis 10 ans qu'il battait en amateur le trottoir parisien, le savait du haut en bas, en long et en large, du perron de Tortoni au ruisseau, et pourrait sans doute lui fournir les renseignements qu'il voulait. Aussi, connaissant le seul moyen de faire parler l'Altesse, de délier cet esprit engourdi et lourd que les vins de France, dont le prince abusait pourtant, n'était pas plus parvenu à mettre en branle que la fermentation de la vendange ne gonfle et n'enlève en aérostat un foudre pesant cerclé de fer, Christian demanda-t-il bien vite des cartes. Comme les héroïnes de Molière n'ont d'esprit que l'éventail en main, d'Axel ne retrouvait un peu de vie qu'en tripotant le carton. La majesté tombée et le présomptif en disgrâce, ces deux célébrités du club entamèrent donc avant dîner un bésigue chinois, le jeu le plus gommeux du monde parce qu'il ne fatigue pas la tête et permet au joueur le plus maladroit de perdre une fortune sans le moindre effort. « Tom Lévis est donc marié ?» demanda Christian II d'un air négligent en coupant les cartes. L'autre le regarda avec ses yeux morts, bordés de rouge. « Saviez pas ?»« Non ?» Qu'est-ce que c'est que cette femme ? Séphora Lehmann, célébrité. Le roi tressaillit à ce nom de Séphora. Elle est juive ? Probable. Il y eut un moment de silence. Et vraiment, il fallait que l'impression laissée par Séphora fût bien forte, la figure ovale et mate de la recluse, ses prunelles brillantes, ses cheveux lisses bien séduisants, pour triompher du préjugé, subsistait dans cette mémoire de slaves et de catholiques que hantaient dès l'enfance les pillages, les maléfices endiablés des juifs bohèmes de son pays. Il continua ses questions. Malheureusement, le prince perdait et, tout à son jeu, grognait dans sa longue barbe jaune. « Ah, mais je m'embête, moi, je m'embête !» Impossible d'en tirer une parole de plus. « Bon, voilà Watelet. Arrive ici, Watelet !» dit le roi à un grand garçon qui venait d'entrer, frétillant et bruyant comme un jeune chien. Ce Watelet, le peintre du grand club et du high life, de loin assez beau de visage, mais sur les traits la fatigue, les marques d'une vie surmenée, représentait bien l'artiste moderne, si peu ressemblant à la flamboyante tradition de 1830. correctement mis, coiffé de même, courrier des salons et des coulisses, il n'avait gardé du rapin d'atelier que la souple allure un peu déhanchée sous son habit d'homme du monde, et dans l'esprit comme dans le langage, la même désarticulation élégante, un pli de bouche insouciant et blagueur. Venu un jour au cercle pour décorer la salle à manger, il s'était rendu si agréable, si indispensable à tous ces messieurs qu'il était resté de la maison, l'organisateur avide des parties, des fêtes un peu monotones de l'endroit, apportant à ses plaisirs l'imprévu d'une imagination pittoresque et d'une éducation promenée à travers tous les mondes. « Mon cher Watelet, mon petit Watelet, on ne pouvait se passer de lui. Il était l'intime de tous les membres du club, de leurs femmes, de leurs maîtresses, dessinait à l'endroit d'une carte le costume de la duchesse de V pour le prochain bal de l'ambassade. Au revers, la jupe folâtre sur le maillot couleur de chair de Mademoiselle Alzire, le petit rat musqué du duc. Le jeudi, son atelier s'ouvrait à tous ses nobles clients, heureux de la liberté, du sans-gêne bavard et fantaisiste de la maison, du papillotement de couleurs douces venant des tapisseries, des collections, des meubles laqués et des toiles de l'artiste, une peinture qui lui ressemblait, élégante, mais un brin canaille, des portraits de femmes pour la plupart, exécutés avec une entente de la supercherie parisienne, des teintes déguisées, des cheveux fous, un art de la fanfreluche coûteuse, cascadante, bouffante et traînante, qui faisait dire à Sprich, dans une dédaigneuse condescendance du commerçant parvenu pour le peintre qui arrive, « Il n'y a que ce petit-là qui sache peindre les femmes que j'habille. » Au premier mot du roi, Watelet se mit à rire. « Mais, monseigneur, c'est la petite Séphora. Tu la connais ?»« À fond. Dis voir. » Et pendant que la partie continuait entre les deux grands seigneurs, le peintre, installé dans une intimité dont il se sentait très fier, jeté à califourchon sur une chaise, se posait, toussait, et, prenant la voix du pitre qui démontre le tableau de la baraque, il commençait. « Séphora Lehmans, née à Paris en 1845, 6 ou 7, chez des brocanteurs de la rue Eguinart, au Marais, une sale petite ruelle moisie entre le passage Charlemagne et l'église Saint-Paul, pleine juiverie. Un jour, en revenant de Saint-Mandé, votre majesté devrait faire prendre à son cocher ce tortillon de rue-là. Elle verrait un Paris étonnant, des maisons, des têtes, un charabia d'Alsaciens et d'Hébreux, des boutiques, des antres de friperies, hauts de ça de chiffons devant chaque porte, des vieilles les triant avec leur nez en croc, ou décarcassant de vieux parapluies, et des chiens, de la vermine, des odeurs, un vrai ghetto du Moyen-Âge, grouillant dans les maisons du temps, balcons de fer, hautes fenêtres coupées en soupente. Le père Lehmans n'est pas juif pourtant. C'est un Belge de Gand, catholique, et la petite a beau s'appeler Séphora, c'est une juive métisse, le teint, les yeux de la race, mais pas son nez en bec de proie, au contraire, le plus joli petit nez droit. Je ne sais pas où elle l'a décroché, par exemple. Le père Lehmans vous a une de ses trognes ? Ma première médaille au salon, cette trogne-là. Mon Dieu, oui. Le bonhomme montre, dans un coin de l'ignoble bouge de la rue Eguinart, de ce qu'il appelle sa brocante, son portrait en pied signé Watelet est pas un de mes plus mauvais encore. Une façon que j'avais trouvée de m'insinuer dans la baraque et de faire ma cour à Séphora, pour qui j'ai eu un de ces béguins. Un béguin, fit le roi, à qui le dictionnaire parisien laissait toujours quelques surprises. Ah oui, je comprends. Continue. Il n'y avait pas que moi d'allumé, bien sûr. Tout le jour, c'était une procession dans le magasin de la rue de la Paix. Car il faut vous dire, monseigneur, que le père Lehmans, en ce temps-là, avait deux installations. Très malin, le vieux avait compris le changement qui s'est fait dans le bibelot pendant ces 20 dernières années. Le romantique brocanteur des quartiers noirs, à la façon d'Hoffmann et même de Balzac, avait fait place aux marchands de curiosités, installés dans le Paris du luxe, avec devanture et éclairage. Lehmans garda pour lui et les amateurs continuèrent à hanter sa moisissure de la rue Eguinart. Mais pour le public, les passants, pour le Parisien suiveur et gobeur, il ouvrit en pleine rue de la Paix un superbe magasin d'anticailles qui, avec les ors fauves, l'argent foncé des vieux bijoux, les dentelles bises au ton de momie, fit tort aux boutiques somptueuses de la bijouterie ou de l'orfèvrerie moderne, ruisselant de richesses sur la même voie. Séphora avait 15 ans alors et sa beauté juvénile et calme s'entourait bien de toutes ses vieilleries. Et si intelligente, si adroite à faire l'article, d'une sûreté d'œil, aussi entendue que le père sur la vraie valeur d'un bibelot. Ah, il en venait des amateurs à la boutique pour le plaisir de frôler ses doigts, la soie moirée de ses cheveux, en se penchant sur la même vitrine. La mère, pas gênante, une vieille avec le tour des yeux si noir qu'elle avait l'air de porter besicle, toujours à vos dents, le nez sur quelques guipures ou de vieux morceaux de tapis, ne s'occupant pas plus de sa fille. Et qu'elle avait bien raison, Sephora était une personne sérieuse que rien ne pouvait déranger de son chemin. « Vraiment, dit le roi qui parut enchanté. Votre majesté en jugera par ceci. La mère Léman se couchait au magasin. La fille, elle, vers 10 heures, retournait à la brocante pour que le vieux ne fût pas seul. Eh bien, cette créature admirable, dont la beauté était célèbre, chantée dans tous les journaux, qui aurait pu, en faisant seulement oui de la tête, voir sortir de terre devant elle le carrosse de Cendrillon, allait chaque soir attendre l'omnibus de la Madeleine et s'en retournait directement au nid de hibou paternel. Le matin, comme les omnibus ne roulaient pas encore à l'heure de son départ, elle s'en venait à pied par tous les temps, sa robe noire sous un waterproof, et je vous jure bien que dans cette foule de fillettes de magasins qui descendent en capeline, en chapeau ou en cheveux, la rue Rivoli-Saint-Antoine, minois pâlis ou rieurs, petite gueule fraîche tout sautant à la brume, toujours talonnée de quelques galants, aucun n'avait pu piger avec elle. « Quelle heure la descente ?» grogna le prince royal fort allumé. Mais Christian s'impatienta. « Laissez-le donc finir. Et alors ?»« Alors, monseigneur, j'étais parvenu à m'introduire dans la maison de mon ange et je poussais ma pointe tout en douceur. Le dimanche, on organisait des petits lotos de famille avec quelques brocanteurs du passage Charlemagne. Jolie société, j'en revenais toujours avec des puces. » Seulement, je me mettais à côté de Sephora et je lui faisais du genou sous la table, tandis qu'elle me regardait d'une certaine façon angélique et limpide, me laissant croire à l'ignorance, à la candeur d'une vraie vertu. Voilà qu'un jour, en arrivant rue Eguinart, je trouve la brocante sans dessus-dessous, la mère en larmes, le père furieux, fourbissant une vieille arquebuse à rouet, dont il voulait se servir pour fracasser l'infâme ravisseur. La petite venait de filer avec le baron Salat, un des plus riches clients du père Lehmans, lequel, je l'ai su depuis, avait lui-même brocanté sa fille comme n'importe quel bijou de serrurerie ancienne. Pendant 2 ans, 3 ans, Sephora cacha son bonheur, ses amours avec ce septuagénaire, en Suisse, en Écosse, au bord des lacs bleus. Puis j'apprends un beau matin qu'elle est de retour et tient un familier hôtel tout au bout de l'avenue d'Antin. J'y cours. Je retrouve mon ancienne passion, toujours adorable et paisible, à la tête d'une table d'hôte bizarre, garnie de Brésiliens, d'Anglais, de cocottes. Une moitié des convives mangeait encore la salade, que l'autre relevait déjà la nappe pour attaquer un baccarat. C'est là qu'elle connut J. Tom Lévis, pas beau, déjà pas jeune, et sans le sou par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'il lui fit ? Mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vendit son fonds pour lui, l'épousa, l'aida à installer l'agence d'abord prospère et richement montée, maintenant en déconfiture, si bien que Sephora, qu'on ne voyait jamais, qui vivait en recluse, dans la drôle de châtellenie que s'est payé Tom Lévis, vient de faire, il y a quelques mois, une nouvelle apparition dans le monde, sous la figure du plus délicieux teneur de livres. Dame, la clientèle s'en est ressentie. La fleur des clubs commence à se donner rendez-vous rue Royale. On flirte au grillage de la caisse, comme autrefois dans le magasin d'antiquité ou la chambre numéro du familé. Quant à moi, je n'en suis plus. Cette femme m'effraie à la fin. Toujours la même depuis 10 ans, sans un pli, sans une ride, avec ses grands cils abaissés dont la pointe se relève en accroche-cœur, le dessous des yeux toujours jeune et plein, et tout cela pour ce mari grotesque qu'elle adore. Il y a de quoi troubler et décourager les plus épris. Le roi froissa les cartes avec dépit. Allons donc, est-ce que c'est possible? Un vilain singe, un poussin comme Tom Lévis, chauve, 15 ans de plus qu'elle, un baragouin de pickpocket. Il y en a qui aiment ça, monseigneur. Et le prince royal, avec son accent traînard et canaille, Rien à faire de cette femme-là. J'ai sifflé au disque assez longtemps. Pas mèche, la voix est barrée. Pardieu, vous, Daxel, nous savons votre façon de siffler au disque, dit Christian quand il eut compris cette expression passée de l'argot des mécaniciens dans celui de la haute gomme. Vous n'avez pas de patience, il vous faut des places ouvertes, le divan du grand 16, boute, pouce, en jambon. Mais moi, je prétends qu'un homme qui se donnerait la peine d'être amoureux de Séphora, qui ne se lasserait pas des silences, des dédains, c'est l'affaire d'un mois. Pas davantage. Paris que non, dit Daxel. Combien ? 2000 louis. Je les tiens. Watelet demande le livre. Ce livre, sur lequel s'inscrivaient les paris du grand club, était aussi curieux et instructif dans son genre que ceux de l'Entre-Lévis. Les plus grands noms de l'aristocratie française y sanctionnaient des gageures les plus baroques, les plus niaises, celle du duc de Courson-Launay, par exemple, ayant parié et perdu tous les poils de son corps, obligé de s'épiler comme une mauresque et pendant 15 jours, ne pouvant ni marcher ni s'asseoir. D'autres inventions encore plus extravagantes et des signatures de héros inscrites sur 100 parchemins glorieux venant se mésallier dans cet album de folie. Autour des parieurs, plusieurs membres du club se groupaient dans une curiosité respectueuse. Et cette gageure ridicule et cynique, excusable peut-être dans les rires ou l'ivresse d'une jeunesse débordante, prenait, devant la gravité de tous ces crânes chauves, les dignités sociales qu'ils représentent, devant l'importance héraldique des signatures engagées, un air de traité international réglant les destinées de l'Europe. Cela se formulait ainsi. Le 3 février 1875, Sa Majesté Christian II a parié 2000 louis qu'il coucherait avec Séphora, elle, avant la fin du mois courant. Son Altesse Royale Monseigneur le Prince d'Axel tient le pari. C'était peut-être l'occasion de signer rigolo et queue de poule, se disait Watelet en remportant le livre, et sur sa face de clown mondain passait le frisson d'un mauvais rire.